battant.
Le podcast de tous les aidants, présenté par Christelle Evita
et Laurent François.
Salut Christelle.
Salut Laurent.
Comment ça va ?
Ça va et toi ?
Eh bien écoute, ça va bien. Je ne te cache pas que je suis un homme heureux puisque nous sommes aujourd'hui à la Fondation Recherche Alzheimer. Et nous avons, chers auditrices, chers auditeurs, tenez-vous bien, le plaisir de rencontrer, surtout d'interviewer aujourd'hui, le docteur Olivier de la Doucette. Salut Olivier.
Bonjour Laurent. Bonjour Christelle.
Salut Olivier.
Alors Olivier, déjà on te remercie de nous recevoir chez toi, si je puis dire, à la Salpêtrière, dans les bureaux de la Fondation Recherche Alzheimer. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter cette fondation que tu as co-créée il y a presque 20 ans avec Bruno Dubois, que l'on salue, nous dire ce dont il retourne, et puis on va ensuite te poser des questions par rapport à Alzheimer, parce que la maladie d'Alzheimer, on la connaît forcément avec ce nom incroyable, mais on ne sait pas réellement ce que c'est. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter la fondation, s'il te plaît ?
Oui, absolument. Je suis un psychiatre, j'aime me définir comme un psychiatre gérontophile, c'est-à-dire qui aime les personnes âgé et je suis clinicien, je suis à domicile mais également en institution ainsi qu'à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière des gens qui présentent des troubles cognitifs. Et il y a une vingaine d'années, avec Bruno Dubois, on s'est dit que c'était dommage de voir autant de chercheurs en France qui consacraient un temps fou à chercher des moyens et non pas à pouvoir se consacrer à leurs travaux. Et on s'est dit qu'il fallait leur venir en aide, car il y a un décalage tout à fait impressionnant qui existait à l'époque et qui existe malheureusement toujours entre la réalité de cette maladie, qui touche un nombre important de personnes en France et dans le monde, et les moyens mis à disposition pour essayer de trouver des solutions thérapeutiques, venir à bout de cette pathologie qui, hélas, endeuille beaucoup de vies en France comme ailleurs.
Alors justement, je te pose la première question et puis après, Christelle, fais-toi plaisir si je puis dire. Qu'est-ce que c'est que la maladie d'Alzheimer ? Concrètement, c'est quoi ? Si tu peux expliquer ça à nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît, Olivier.
Pendant très longtemps, jusque dans les années 90, on avait l'habitude de faire la distinction entre la maladie d'Alzheimer et la démence sénile. La maladie d'Alzheimer était une maladie que l'on qualifiait de démence présénile, c'est-à-dire une maladie qui touchait les gens avant 65 ans. On nous disait « c'est rare, vous en verrez peu ». C'est une pathologie qui existe, mais qui est relativement rare, qui représente à peu près, on va dire, 2% de la totalité de ces pathologies de type Alzheimer. Et au-delà de 65 ans, on avait l'habitude d'appeler ces pathologies qui atteignaient les fonctions cognitives, on les appelait démence sénile. Puis on s'est rendu compte, à ce moment-là, donc début 2000, qu'en réalité, c'était la même pathologie. Qu'on ait 48 ans ou 92 ans et que on commence à présenter des troubles cognitifs, on s'est rendu compte, dès lors qu'on a pu regarder dans le cerveau de près ce qui se passait, que ce sont les mêmes processus qui se mettent en place. Et donc, on s'est dit, on va pas faire de distinguo comme avant. On va appeler ça démence sénile de type Alzheimer. Et par réduction, c'est devenu maladie d'Alzheimer. Et ce terme a connu tout de suite un grand succès parce que pendant longtemps, dès lors qu'on parlait de démence sénile, eh bien, c'était un terme au fond qui était synonyme de vieillesse, de processus inéluctable, de quelque chose, d'une espèce de fatalité sur lequel il n'y avait pas grand-chose à faire. On ne parle plus de démence sénile. Ce mot n'existe plus. On dit maladie d'Alzheimer, quel que soit l'âge. Alors, que se passe-t-il dans le cerveau ? Eh bien, on sait maintenant que c'est une maladie qui est liée à une cascade d'erreurs biologiques. Dans le cerveau d'un patient atteint de maladie d'Alzheimer, à un moment donné, il se passe certaines erreurs biologiques qui aboutissent à l'accumulation de protéines anormales qu'on appelle les protéines bêta-amyloïdes. Elles s'accumulent dans le cerveau entre les neurones. Les neurones sont, au fond, les cellules qui forment le cortex à l'origine de l'intelligence, à l'origine du fonctionnement intellectuel, du fonctionnement du cerveau. Entre ces neurones s'accumule cette protéine. Cette protéine va petit à petit, très lentement, se répandre dans le cortex et pendant longtemps, la présence de cette protéine ne sera pas visible. Les gens vont être porteurs de cette protéine anormale sans le savoir. Ils auront une maladie d'Alzheimer débutante, mais sans signe clinique. Donc, il y aura une espèce de silence clinique de la maladie. Mais la maladie va inexorablement se répandre dans le cerveau. Donc, c'est la phase dite préclinique qui peut durer 5, 10, 15, voire 20 ans. Et puis, à un moment donné, lorsque la densité de ces protéines devient trop importante, que les neurones sont trop entravés dans leur fonctionnement normal, à ce moment-là, on voit apparaître une deuxième protéine qu'on appelle la protéine Tau, qui, elle, est très délétère, elle abîme vraiment les neurones, elle est dans les neurones, c'est un dépôt d'une protéine voilà, qui déstabilise profondément le fonctionnement des neurones. Et là, les symptômes vont apparaître. Les premiers symptômes de cette maladie sont essentiellement liés à des troubles de la mémoire. Et ce qui est un peu contre-intuitif et qui peut parfois rassurer à tort les familles, c'est que les gens vont avoir des troubles de la mémoire récente, mais ne seront pas du tout perturbés dans leur mémoire ancienne. Donc, ils viennent nous voir en disant « Enfin, docteur, c'est pas grave. Bon, maman sait plus très bien ce qu'elle a fait la veille, mais par contre, elle peut parfaitement réciter un poème qu'elle a appris dans son enfance. » Ben, justement, c'est un petit peu inquiétant, ça. C'est pas normal. Et c'est le début, parfois. Alors, attention, parce qu'on peut aussi oublier ce qu'on a fait la veille, tout simplement parce qu'on est fatigué, stressé ou déprimé. Donc, tout oubli, surtout après 55 ans, n'est pas nécessairement la maladie d'Alzheimer. Je pense que même dans la grande majorité des cas, c'est autre chose. Il est normal d'oublier. Mais à un moment donné, ces oublis peuvent s'accumuler, devenir de plus en plus gênants. Et ce qui fait la différence entre un oubli normal et un oubli lié à la maladie d'Alzheimer, c'est que cet oubli s'accumule, s'accompagne également d'autres troubles qui sont insidieux, mais qui petit à petit vont créer autour de l'individu comme un espèce de flou. Il est moins précis dans tout ce qu'il fait. Il commence à désinvestir certaines activités intellectuelles. Il va vous dire « oui, j'oublie un peu les choses, mais c'est pas grave ». Et puis on va lui demander « mais est-ce que tu lis encore ?»« Non, je lis plus parce que ça me fatigue. » En réalité, il a du mal à retenir. « Est-ce que tu continues à avoir une vie associative ?»« Non, j'ai un peu renoncé à la présidence de l'association des amis collectionneurs de timbres, par exemple. » Mais à un moment donné, ces oublis peuvent s'accumuler, devenir de plus en plus gênants. Et ce qui fait la différence entre un oubli normal et un oubli lié à la maladie d'Alzheimer, c'est que cet oubli s'accumule, s'accompagne également d'autres troubles qui sont insidieux, mais qui petit à petit vont créer autour de l'individu comme un espèce de flou. Il est moins précis dans tout ce qu'il fait. Il commence à désinvestir certaines activités intellectuelles. Il va vous dire « oui, j'oublie un peu les choses, mais c'est pas grave ». Et puis, on va lui demander « mais est-ce que tu lis encore ?»« Non, je lis plus parce que ça me fatigue. » En réalité, il a du mal à retenir. « Est-ce que tu continues à avoir une vie associative ?»« Non, j'ai un peu renoncé à la présidence de l'association des amis collectionneurs de timbres, par exemple. »« Ah bon, oui, parce que ça me fatiguait, c'était compliqué. » Il trouve souvent des explications, mais en réalité, quand on regarde comme ça, on se rend compte que petit à petit, en plus de ces troubles de la mémoire, il y a des difficultés de concentration, des difficultés à trouver ses mots, etc. Progressivement, la personne va avoir des difficultés à s'adapter à sa vie quotidienne.
Merci beaucoup. J'ai eu l'impression d'entendre ce que j'avais vécu et ce qui semble être ce que ma mère a vécu dans ce désinvestissement du monde. Je trouve que c'est extrêmement juste et puis toujours cette justification. Qui dit maladie, on aimerait se dire traitement. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire là-dessus concernant la maladie d'Alzheimer?
Alors, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, si c'est pas une maladie que l'on guérit, hélas, mais on y travaille tous, y compris donc les chercheurs que nous soutenons avec la fondation, on la soigne avec une certaine efficacité. C'est-à-dire qu'on peut freiner le déclin. On peut accompagner les patients, les familles qui sont tous en souffrance. Une des caractéristiques d'Alzheimer, qui en fait une maladie un peu différente de toutes les autres, c'est que c'est pas simplement la maladie d'un individu, c'est aussi la maladie d'une famille. D'accord? Quand vous avez un cancer, bon, vous avez à vous battre, et puis vous en parlez avec vos proches qui évidemment sont pleins d'empathie et vous soutiennent. Mais quand vous avez une maladie d'Alzheimer et que donc la vie devient de plus en plus compliquée et qu'en plus vous avez des symptômes qui sont très particuliers dans cette maladie qu'on appelle dans notre jargon l'anosognosie, c'est-à-dire la méconnaissance des troubles, en d'autres termes que vous oubliez que vous oubliez, eh bien là on mesure les difficultés au quotidien. Si je me casse le col du fémur et que j'ai mal et que j'ai du mal à me déplacer, je le dis à mon entourage et mon entourage m'explique ce qu'il faut faire. Quand j'ai une maladie d'Alzheimer, que je me perds systématiquement dans le quartier et que mon épouse me dit « Écoute, s'il te plaît, ne va pas aller chercher la baguette aujourd'hui parce que hier, je t'ai perdu pendant 3 heures ». Et que je réponds « Mais pourquoi tout va bien ? J'ai toujours été chercher la baguette. Pourquoi est-ce que tu me dis ça ?» On mesure les difficultés que ça implique pour les familles. Ça, c'est au début. Mais après, ça devient de plus en plus compliqué. La personne ne sait plus où elle est. Il faut être auprès d'elle, parfois 24 heures sur 24. Donc, c'est très, très lourd, très compliqué. Alors, vous me posiez la question « Comment ça se soigne ?» Ça se soigne de plusieurs manières. C'est une prise en charge globale qu'il faut essayer de mettre en place dans la mesure du possible. À l'impossible, nul n'est tenu. Attention à ça, parce que je vois avec cette maladie des gens qui sont un peu abandonnés, ça peut arriver, mais je vois aussi des familles, des soignants, des aidants qui s'épuisent à vouloir être auprès de leurs proches et d'être extrêmement performant, parfait dans la prise en charge. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Mais on essaye de mettre en place une prise en charge globale, d'abord médicale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on essaie de faire en sorte que cette personne qui souffre d'une maladie d'Alzheimer n'ait pas trop de comorbidité, trop d'autres maladies associées. Parce que elles ne font pas bon ménage avec Alzheimer. Si une personne, par exemple, attrape un mauvais rhume ou une bronchite et qu'elle a la maladie d'Alzheimer, elle va être probablement très perturbée. Elle risque d'être épuisée, beaucoup plus que quelqu'un d'autre. Tout simplement parce que le cerveau étant déjà un peu à la peine, si vous avez une grosse bronchite, vous avez moins d'oxygène qui vient au cerveau, et donc le cerveau qui est déjà en difficulté va lui complètement décrocher, et donc cette personne va se retrouver probablement au fond du lit, épuisée, complètement endormie. Ça peut inquiéter les familles, en réalité c'est pas très grave et les choses vont s'arranger. Mais on voit bien qu'il faut éviter ces comorbidités. Si vous tombez et que vous vous cassez le col du fémur, on va vous opérer sous anesthésie générale. Ça va durer 1 ou 3 heures. Là encore, c'est pas excellent de faire une anesthésie générale quand on a la maladie d'Alzheimer. Donc, on surveille de près le patient pour faire en sorte que tous les problèmes annexes puissent être soignés. Ensuite, on peut aussi lui donner un traitement. On a aujourd'hui des médicaments qui ont donné lieu à des controverses, qui sont un petit peu critiqués par les uns, mais en réalité, ces traitements sont une chance pour nos patients, même s'ils sont pas très efficaces, ils sont pas dénués d'intérêt. Il faut simplement les donner à bon escient, parce qu'il y a quelques effets secondaires. Donc si la personne est en très bonne santé, qu'elle a peu d'autres médicaments par ailleurs, si on exclut certaines contre-indications, on peut lui donner. Si elle a beaucoup de problèmes, on réfléchit à deux fois. Mais il faut savoir que ces médicaments sont largement plébiscités par tous les spécialistes de la maladie d'Alzheimer. Ils sont malheureusement pas remboursés, mais il faut pas y renoncer d'emblée. Après, il faut faire attention à tous les symptômes annexes. On peut avoir Alzheimer et être déprimé. On peut avoir Alzheimer et être insomniaque. On peut avoir Alzheimer et être très angoissé. Tous ces symptômes se soignent avec des médicaments adaptés. Donc, il ne faut pas y renoncer du tout. On les donne avec précaution, mais il faut savoir les donner.
Merci à toi, Olivier, pour toutes ces informations que tu nous donnes. J'ai une question qui est toute bête, mais à part la partie médicale, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, si je puis m'exprimer ainsi?
Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, parce que la maladie d'Alzheimer aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre de comportements qui permettent de la prévenir, pour ceux qui n'ont pas de symptômes, mais aussi, dès lors qu'elle s'installe, ces mêmes comportements permettent de freiner le déclin. Donc, si on peut proposer à nos patients d'adopter ces comportements vertueux pour freiner le déclin, ça fait partie de la prise en charge. Alors, quels sont-ils? La première des choses, il faut essayer de stimuler le patient le plus possible. Nous avons dans notre cerveau un réseau de neurones absolument incroyable qui bouge tout le temps. C'est-à-dire que les neurones interagissent entre eux, ils créent des connexions qui se font et se défont au fur et à mesure de la vie qu'on a et des stimulations. Donc, un malade avec un Alzheimer qui est très stimulé va être capable donc de créer de nouvelles connexions et peut-être se défendre davantage contre la maladie d'Alzheimer. Les stimulations qu'il faut proposer sont de toutes sortes. Les gens me disent, mais qu'est-ce qu'il faut proposer? Est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres? On peut aller chez une orthophoniste qui, elle, est une spécialiste de ça et qui vous fera travailler spécifiquement la mémoire. C'est remboursé par la Sécurité sociale et c'est prescrit par les médecins. Mais on peut aussi tout simplement à la maison entourer ce malade et lui proposer toutes sortes de stimulations. Ça va dépendre au fond de lui. Qu'est-ce qu'il aime faire? S'il a jamais fait de peinture, c'est peut-être hasardeux de lui proposer. Mais en revanche, s'il aimait chanter, s'il aimait la musique, s'il aimait dessiner, s'il aimait jouer aux cartes, s'il aimait visiter des musées, etc., on va lui proposer dans la mesure du possible. Tout ce qui permet donc de sortir d'une certaine routine et qui stimule la curiosité d'un malade est bon à prendre. C'est bon aussi à prendre pour nous, quel que soit notre âge, pour pouvoir nous protéger contre cette maladie un jour. Donc on stimule le cerveau. La deuxième chose qui est importante, c'est l'activité physique. Il faut faire de l'exercice. Il faut en faire quotidiennement. Pourquoi? Parce que en faisant de l'exercice, on amène au cerveau davantage de sang et donc davantage de sucre, davantage d'oxygène, davantage de métabolites qui sont utiles pour notre cerveau. Donc, il faut essayer, là encore, si c'est possible, d'organiser tous les jours un peu d'exercice pour notre patient. Qu'est-ce que c'est un peu d'exercice? 30 minutes de marche, voire plus, évidemment, si affinité. Mais voilà, 30 minutes de marche par jour, d'un bon pas, c'est bon à prendre. Après, il y a l'alimentation. L'alimentation joue un rôle. L'alimentation, on a maintenant compris que le régime le mieux adapté pour protéger nos neurones, les aider à se défendre, c'est le régime méditerranéen, riche en oméga-3, riche en antioxydants qu'on trouve dans les fruits, les légumes, pauvre en acides polyinsaturés. Ce régime est à essayer de retenir et de mettre en place dans la mesure du possible, là encore. Il faut que le patient aime ce qu'il mange, parce que sinon, il risque de perdre l'appétit. Mais donc, l'alimentation, c'est important aussi pour nos patients. Après, il y a d'autres choses qui sont importantes. Il faut faire en sorte qu'ils dorment correctement. Le sommeil est important pour la mémoire, quel que soit l'âge, encore une fois. Mais là, il faut essayer de voir comment dort notre malade et l'aider à faire des bonnes nuits. C'est pas simple parce que souvent la maladie d'Alzheimer déstabilise les rythmes veille-sommeil et il y a parfois ce qu'on appelle une inversion du rythme. Les gens s'agitent pendant la nuit et dorment pendant la journée, ce qui est absolument épuisant pour l'entourage. Et puis, il y a autre chose aussi qu'il faut essayer de proposer, c'est d'être attentif aux sens. Il faut que la personne avec Alzheimer voit et entende correctement. Si elle entend mal et qu'elle voit mal, elle sera moins stimulée. Or, tout ce qui stimule, comme on l'a dit tout à l'heure, est bon pour le cerveau. Alors, voir mal, habituellement, ça c'est assez facile à repérer. Entendre mal, plus compliqué. Hein, c'est plus compliqué, surtout chez les hommes, ils sont un peu pudiques avec ça, ils aiment pas beaucoup qu'on les appareille. Or, une personne qui est diagnostiquée Alzheimer et qui entend mal, il faudra lui proposer très tôt un appareil. Pourquoi ? Parce que c'est assez compliqué de porter un appareil, ça déstabilise un peu au début, et si on le propose trop tard dans l'évolution de la maladie, le patient n'a plus la capacité à accepter l'appareil, ne pourra plus s'adapter et l'appareil va finir très vite dans un tiroir, voire dans une poubelle.
Olivier, ce que tu nous racontes là, c'est quand même extrêmement complexe pour un aidant. En fait, on se dit tous, ok, il ou elle a perdu la mémoire, mais ça va beaucoup plus loin que ça finalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as quelqu'un qui a Alzheimer dans la famille, et quand c'est quelqu'un dont tu es très proche, dont tu vas t'occuper, pardon, hein, mais c'est l'enfer. Je sais pas ce que tu en penses, Christelle.
Je partage totalement et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai rapidement compris que moi, je ne serais pas en capacité de garder ma mère à domicile. Parce qu'il y a trop d'aspects que je ne maîtrisais pas, sans compter la charge émotionnelle. Et comme je le dis souvent, notre mère, puisque je suis aidante avec ma sœur, n'a jamais été aussi bien depuis qu'elle est diagnostiquée que depuis qu'elle est en EHPAD. Parce qu'elle est stimulée quand il faut, elle est nourrie à heure fixe, elle a des activités, il respecte ses rythmes. Et du coup, j'ai vu la différence. Il y a la prise de médicaments que nous ne pouvions plus assurer. Il y a la vigilance en termes de poids. Et donc oui, le maintien à domicile, moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça parce que pour bien faire, la palette est tellement large que ça me semble éminemment compliqué.
Et bien sûr, Christelle, tu as raison de dire ça. C'est important parce que ça va un petit peu à l'encontre de l'EHPAD bashing qui est souvent, on va dire, repris dans les médias depuis de nombreuses années et particulièrement depuis 2 ans à la suite du scandale Orpea. Je trouve ça un petit peu dommage parce que les gens sont terrifiés à l'idée et très culpabilisés à l'idée de placer un patient dans un EHPAD. Il faut savoir qu'environ 50% des personnes avec Alzheimer vont finir leur vie en EHPAD. Les 50% autres resteront à domicile. Mais le maintien à domicile, c'est très compliqué, extrêmement chronophage, et parfois, c'est pas toujours la meilleure solution. Ça peut être dans certains cas même un peu un enterrement de première classe parce que ces patients sont chez eux ou bien on les laisse complètement seuls toute la journée quand ils bougent pas ou bien ils sont avec des gens mais qui sont pas très motivés, c'est pas toujours le cas bien sûr mais ça peut être comme ça et qui les stimulent très peu. Alors, ou alors ils sont très très agités et on est obligé de leur donner des grandes doses de médicaments sédatifs pour les maintenir chez eux. Alors que parfois, quand l'EHPAD est bien organisé, que l'EHPAD a, on va dire, des prises en charge de qualité adaptées à nos patients Alzheimer, eh bien, ces mêmes patients peuvent retrouver une vie sociale, une stimulation, un suivi médical qui est positif, les soignants, la famille respire à nouveau, peut aller visiter le proche en étant beaucoup plus détendu et la relation est de grande qualité à ce moment-là. Donc, il faut pas écarter cette possibilité et en tout cas, si elle se présente, si le problème se présente, il faut l'analyser sans se sentir trop coupable et surtout avec un minimum de préjugés. Tous les EHPAD ne se ressemblent pas, certains sont meilleurs que d'autres, comme partout ailleurs, il faut vraiment voir les choses comme ça, mais ne diabolisons pas ces univers qui sont pour la grande, grande majorité des univers compliqués avec un personnel de grande qualité, très dévoué, qui fait un métier difficile et souvent peu valorisé.